18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver. Les jours défilent. Vitesse grand V. Les dates se rapprochent. Et puis, dans maintenant, allez, moins de 10 jours, nous connaîtrons les 5 qualifiés africains pour la Coupe du Monde qui se déroulera, je vous le rappelle, en novembre prochain au Qatar. Bien entendu, la semaine dernière, nous sommes revenus avec Nasser, notamment sur le choix de l'arbitre botswanais et qui avait notamment arbitré Burkina Faso-Algérie à Marrakech. Et tout le monde s'est souvenu des mauvais coups de sifflet de l'arbitre botswanais. L'Algérie a protesté, mais la Confédération a maintenu ce trio d'arbitres. Espérons seulement qu'il n'y aura pas de regrets à se faire. En attendant, bien entendu, les deux sélectionneurs se préparent, que ce soit Rigobert Song pour le Cameroun et Jamel Belmadi pour l'Algérie, avec cette première joute qui se déroulera sur le terrain de Japoma. L'équipe également qui va rentrer en regroupement du côté de la Guinée équatoriale. Le choix des joueurs est fait. On verra, en tous les cas, c'est ce que nos amis et analystes vont décortiquer dans cette première heure, qui, je vous le rappelle, sera suivie après, en deuxième heure, d'un point sur les Jeux méditerranéens avec le commissaire de ces Jeux, M. Aziz Delouaz, en direct depuis Alger, et également un volet handball avec Salim Nejel et probablement M. Saoud Berkous par téléphone.
Jusqu'à 20h, Fou de sport sur Beurre FM. Beurre FM.
Bon, je commence par saluer l'équipe, le Marseillais. Alors, j'attends. Oui, il faut que. Je dois avoir ce qu'on appelle des tentacules. Alors, le Marseillais, il est par ici. Salut, le Marseillais.
Salut Mohand, mais moi je me sens pas visé parce que je reste un mec du 93. Moi j'ai toujours assumé mon identité 93. Il y a que j'aime que le club de Marseille. Et encore, hein, t'as vu, c'est fluctuant. Donc, ouais. Donc je n'accepte pas, je refuse. Le seul Marseillais ici, oui. C'est Bilal Lendman.
D'accord. Voilà. Ah oui, ah non, en plus, lui il a l'accent. Hein.
Lui c'est un vrai. Moi, je resterai toujours un mec du 93.
Attends. Non, mais Bilou c'est un vrai 13.
Oui, oui. Voilà. Moi je fais partie de ces mecs du 9-3 qui ont suivi Bernard Tapie, tu vois, parce que c'est un mec du 9-3 aussi, on l'a suivi.
Et puis voilà, le coach, lui, qui est tout bouillon à l'image de la couleur de son survêt, il est prêt à en découdre avec ses matchs de barrage. Ils arrivent très vite, déjà dans moins de 8 jours, dans 6 jours maintenant, là, les premières confrontations. Bonsoir, coach.
Bonsoir, Mohand. Par contre, je te sens en pleine forme, toi. Oh, t'as du jus, hein.
Oui.
Sofiane, on va le mettre de côté, on va attendre un petit peu. On va attendre un peu que Marseille arrive à gagner un peu, avance un peu dans le championnat, parce que là, il n'a pas compris, il y a 15 points d'avance pour le PSG. Non, mais oui, bien sûr, c'est le match de l'Algérie, plus les jours vont passer, plus il va prendre une importance phénoménale. Du moins, on va se rendre compte avec le temps que l'importance est plus que sportive, hein. De toute façon, ça l'a toujours été, mais bon. Comme dirait l'autre, on se prépare pour avaler la couleur, parce que tout ce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai l'impression que ça va pas être si simple que ça.
Bon, et puis notre juriste qui a même réussi, qui a eu le temps plutôt d'écouter cette conférence de Jamel Belmadi, notre ami Ahmed Deloudnik, je salue. Bonsoir Ahmed.
Bonsoir l'équipe. Ben écoutez...
Une petite doua, Ahmed. Hein, on a senti une petite doua,
ouais. Écoutez, on est tous avec les Verts. J'espère qu'ils vont passer. Ça va être décisif. Deux matchs, je dirais, suivis par le monde entier même.
Oui, oui.
Apparemment, tellement médiatisé, tout le monde suit ça.
Et il sera même retransmis en direct et en clair sur l'équipe 21.
Voilà.
Moi, c'est ça que je m'insurgis. Tu te rends compte que l'Algérie a fait dans le football depuis le temps. On a Zinedine Zidane qui est le plus grand joueur du monde. On a Karim Benzema aujourd'hui qui est le plus grand du monde. On a eu des managers, on a eu des joueurs. Et nous, toujours, on se contente du petit truc de la télé qui dit, on va voir l'Algérie. Mais ça devrait couler de source. Pour nous, ça devrait. On devrait se dire, tiens, est-ce qu'on va faire les quarts de finale à la Coupe du Monde? Est-ce qu'on peut faire la demi? Est-ce qu'on peut la gagner? On nous renvoie toujours à des petites choses comme ça, là.
Mais
ah, le match va peut-être être
difficile. Oui, mais mon cher coach, aujourd'hui, c'est même pas quart de finale. C'est est-ce que tu vas y aller à cette Coupe du Monde?
Ouais, bien sûr, voilà, on est toujours là-dessus.
Ouais,
non, ça devrait couler de source.
Parce que là, non seulement. Déjà, on a souvent parlé dans cette émission. De ce système des 5 qualifiés pour un continent de 53 nations. Mais le pire, on y reviendra tout à l'heure à 19h dans la deuxième partie d'émission, où il faut savoir qu'au niveau africain, un seul représentant qualifié directement pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris.
Incroyable.
Ça peut être ou l'Égypte ou la Tunisie, parce que je ne vois pas
un seul.
Et puis le second va jouer ce qu'on appelle dans un groupe de la mort avec des pays européens. Et si tu as la chance de gagner, parce que tu n'as aucune chance, il faut le savoir, l'Afrique aura un représentant pour les Jeux Olympiques au niveau handball. C'est la plus grande aberration du système olympique.
C'est un truc de fou.
Voilà. Il va falloir un jour que l'on se mette là autour de cette table et discuter des différentes épreuves des Jeux Olympiques sur lesquelles il y a une grande arnaque et sur lesquelles tout le monde ferme les yeux. Voilà, parce qu'on s'intéresse aux soi-disant grandes nations d'un tel sport, mais on oublie qu'il y a des pays qui travaillent pour réussir.
Normalement, c'est ça. Ça devrait être exactement
ça. Ça s'est confirmé, Mohamed.
Oui, mais j'ai eu bien sûr notre ami Salim Nejjal. De toute façon, tout à l'heure, dans la deuxième partie, il va venir pour discuter justement de Jeux Olympiques 2024 à Paris. En attendant, c'est parti. Et jusqu'à 20h avec, bien entendu, le gros dossier. C'est bien entendu la conférence de presse de Jamel Belmadi.
Les dossiers de Fou de Sport.
Bon, alors, messieurs, je vous rappelle que nous sommes à 6 jours maintenant de cette première confrontation. Vous avez vu la liste, vous avez suivi la conférence de presse. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? En gros, c'est un match à quitte ou double. Je passe. Je vais résumer la pensée de Jamel Belmadi. J'espère qu'il n'est pas en train de se dire, tiens, je pense à sa pensée. Mais moi, je le pense comme ça. S'il passe avec ce groupe, il va dire, ah, vous voyez, j'ai eu raison. Donc, je prends ce groupe pour la Coupe du Monde. Ça veut dire beaucoup seront écartés. S'il ne passe pas, il va dire, ben voilà, ça y est, je n'ai pas réussi. Au revoir. Alors, qui commence? Après, bien sûr, la liste, on va la décortiquer au fur et à mesure.
Je commence.
Tu peux commencer.
Alors, on va essayer d'être pas dans la langue de bois. La liste, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions et beaucoup d'incompréhension surtout. Et la conférence de presse, malheureusement, que j'ai écoutée un petit peu tout à l'heure en venant, j'ai envie de dire concours d'enfoncement de porte ouverte, mais qui n'est pas dû seulement, on va dire, au sélectionneur national. Aussi dû aux questions qui sont posées, qui sont parfois assez lunaires, je dois dire, comme par exemple quand on pose des questions sur l'équipe adverse. Bon, je sais pas ce que ça vient faire là. Et ce qui ressort l'impression qui ressort de ces deux événements, donc la liste et la conférence de presse, c'est beaucoup d'inquiétude. Et si ça doit passer, ça passera par un supplément d'âme de certains joueurs, mais je pense pas que ça passera par un chamboulement tactique ou quoi. Okay. Ce sera vraiment les joueurs clés de cette équipe qui devront faire le boulot, quoi.
Coach,
ouais. Ah oui, j'ai écouté attentivement Sofiane et moi j'ai surtout envie de dire quand tu es comme ça en phase de match à élimination directe, c'est quelque chose qui est très rare dans le football. Hein. Mmh. On voit rarement, mis à part les qualifications de Coupe du Monde, du quart de demi-finale, quand tu es sur un match aller-retour, ça sous-entend qu'on va se retrouver comme en 2014, c'est ça, avec le Burkina.
Tout à fait.
Un match à pression de folie. C'est-à-dire que le contenu, le match, il n'y en aura pas, on va simplement voir le qualifier. Moi, ce qui m'embête un petit peu, depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui, hein, et on va répéter encore ce qu'on dit, c'est que comment on n'a pas préparé cette Coupe du Monde? C'est-à-dire comment on ne l'a pas préparé? Comment les choses... C'est-à-dire s'il y a un objectif qui avait été atteint, c'était ce match-là, ces deux matchs-là, qui aurait dû faire partie, la CAN aurait dû faire partie intégrante d'une étape de cet objectif-là. Ce qu'elle a dû faire aussi sur le match de la Coupe arabe, où elle a fait rentrer certains joueurs, mais le problème, c'est que les deux mélangés a créé l'implosion. Une vraie implosion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une liste de joueurs où tu te poses des questions. T'as des gens qui viennent de partout, qui ne connaissent pas du tout un, ils connaissent pas la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Deux, ils connaissent pas l'équipe nationale. Et trois, tu vas leur donner une charge, même émotionnelle, où ils vont rentrer à l'intérieur et ils risquent d'apporter de l'angoisse, du stress aux joueurs qui, eux, vont avoir l'habitude de mettre en place ce genre de situation. Ça, c'est ça que la problématique est là. La deuxième, c'est que Jamel, il est, au lieu de mettre son équipe en face de ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il donne les clés du camion à ses joueurs, il prend son élite, ses joueurs d'élite, là, et il met en place toute une stratégie pour que les joueurs prennent en main leur destinée. C'est pas l'entraîneur qui, sur le banc de touche, va activer ou va modifier l'équipe ou ça. Il va échanger avec eux, il va mettre en place des plans, sûrement qu'il a dû préparer, et ne pas se mettre, lui, en évidence comme il le fait aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il annonce qu'il a deux matchs où il s'en va, ou il a deux matchs où il reste. Mais toi, c'est pas ça le problème aujourd'hui, il n'est pas là le problème pour nous. Nous, on veut que l'équipe nationale d'Algérie aille en Coupe du Monde. Que tu ailles toi, que ce soit un autre, que ce soit. On n'en a rien à faire, nous, de tout ça. Nous, on demande simplement comment on peut aller en Coupe du Monde aujourd'hui en ayant vécu ce qu'on a vécu en trois mois. On l'aurait vécu il y a deux ans en arrière, on l'aurait accepté. Il y a deux ans en arrière, on dit bon, c'est pas grave, on a deux ans pour préparer, on a des joueurs qui sont là. Moi, je dis simplement, c'est que les mêmes joueurs qui étaient remplacés en 2019 le sont en 2022. Je pose la question, ils sont où ces joueurs-là? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours la même équipe qui est en place et pourquoi il n'y a pas eu de rajeunissement, d'explosivité, de vitesse qu'on a besoin? Même cette équipe-là, elle ronronne à un moment, elle ronronne, même dans ces matchs-là, elle a ronronné, on l'a vu plusieurs fois dans des matchs. Il leur a fallu apporter du sang frais, de la jeunesse, de l'explosivité. Et là, l'équipe serait repartie. Il n'y a pas eu tout ça. Peut-être qu'il n'y en avait pas des joueurs. Mais bon, faut regarder. Là, je vois la liste des joueurs qui sont là. Je dis oui, peut-être, mais je pose des questions. Parce qu'il y en a d'autres. Hein. On a la liste avec Sofiane. Hein. Des mecs qui sont à Clermont, des mecs qui sont à Troyes, des mecs qui sont en Ligue 1.
Oui, oui.
Comparé à des mecs qui jouent dans les ligues arabes, je pose des questions. Est-ce que tu penses que c'est possible? Ah bon? Donc l'autre est meilleur. Ah d'accord, ok. Bon, on va écouter. Peut-être. Mais là, on est en Afrique, on va pas jouer les pays arabes, on va jouer le Cameroun chez lui à domicile, et avec des conditions qui vont être très serrées.
Ouais.
Tu vois, en gros.
Bon, le point de vue de notre ami Ahmed, alors? En plus, tu es comme tout le monde, tu as écouté cette conférence.
Mais c'est la médiation.
Tu as vu aussi cette liste, un nombre impressionnant de changements de joueurs quand même, voilà.
Moi, je suis content d'entendre quand même le nom de Adlène Guédioura qui est revenu. Bon, maintenant, est-ce qu'il va jouer, il va pas jouer, j'en sais rien, on verra. Moi, je me pose beaucoup de questions. À ce niveau-là, en tant que sélectionneur, je pose aussi la question à M. Sanjak, parce que ça m'intéresse de connaître réellement comment un sélectionneur fait ses choix, ce qu'on appelle la prise de décision face à ces situations-là. Est-ce qu'il y a une règle connue? D'accord, une, deux, trois règles, je ne sais pas. Dans le monde, comment ça se passe? Dans le monde professionnel, à ce niveau-là, décisive, voilà, comment se prennent les décisions? Donc, cette liste qui vient de tomber ce matin, j'ai écouté, il y a certainement, je dirais, un renouveau hein, de pas mal de joueurs, comme par exemple l'absence de Brahimi, l'absence de... J'ai pas tous les absents. Il y a
Boulaya,
Belkhabla qui n'est pas rappelé.
Etc.
Benrahma qui n'a pas été appelé.
Ils ont injecté pas mal de joueurs. Maintenant, moi, ma question, elle est simple, mais peut-être compliquée pour ceux qui prennent des décisions. Comment les choix se font, les prises de décision, d'accord, à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a des conditions pour dire moi je prends tel joueur et non pas tel joueur? Parce qu'il parlait de statistiques et de chiffres. Il menaçait les journalistes de ramener des chiffres et de venir discuter avec lui. Moi je me pose des questions, moi je suis qu'un amateur, un supporter, j'aimerais bien que quelqu'un comme vous m'explique comment ces décisions se prennent, quoi. Après j'ai pas mal de questions, mais...
J'ai compris Ahmed, parce que Nasser, pourquoi c'est Nasser qui peut répondre? Il était dans cette position de sélectionneur. C'est vrai que quand tu dis un journaliste, on va parler chiffres. Je ne sais pas, moi, on avait parlé d'opération commando. Et aujourd'hui, j'ai lu ce matin sur quelques sites, j'ai l'impression que c'est notre phrase qui a été reprise, opération commando. Mais on l'a dit depuis le début du tirage au sort pendant la CAN.
Bien sûr. Non, mais... Monsieur Loubny a posé une question très pertinente. Alors, je vais t'expliquer la raison. La première raison, c'est ses choix du sélectionneur. Ça sous-entend qu'il le prend, son âme et conscience, sur ses critères qu'il a, lui, de son projet de jeu qu'il a mis en place, lui, et de ce qu'il attend du football, lui. partir du moment où on peut voir qu'il a tergiversé au début de son mandat et qu'à la fin, il a retrouvé un équilibre, une équipe qui a pu voler pendant 3 ans, toute seule, on va dire. Le problème, c'est les statistiques qui viennent derrière. Les stats, ils ont que leur puissance, c'est qu'un chiffre. J'ai pas encore vu un statisticien me dire, avant le match, voilà, il va se passer ça et ça et ça. Impossible. Donc, c'est des constats, c'est des bilans que tu tires et qui te donnent un aperçu de la rencontre. C'est-à-dire que tu sais que le joueur a couru ça, le mec a fait des passes là. Souvent, on n'a pas trouvé encore le mec qui dribble et qui marque des buts. Si ce n'est qu'on va dire, oui, il y a ça, mais il y a le côté du football, c'est qu'il y a des joueurs qui touchent pas le ballon, ils marquent. Et donc, puis comment tu intègres ça dans ta logique? Donc aujourd'hui, on est dans des statistiques parce que ça devient de plus en plus précis pour donner une raison aux joueurs pourquoi je te prends pas. C'est pas pourquoi tu te prends, c'est pourquoi je te prends pas. Regarde tes stats, ils sont là. Tu cours que 3 km, tu as loupé 200 ballons, t'en as loupé là. Donc, c'est un outil pour que l'entraîneur puisse dire aux mecs qui veulent venir, non, tu peux pas, regarde, tu rentres pas dans ce giron. Et quand on sait que le football est quand même une émanation d'un groupe, d'une dynamique d'un groupe, d'une relation entre certains joueurs, des complicités qu'il y a à l'intérieur des jeux, qui eux font basculer les matchs, pour X raisons. On ne va pas étayer ça si on va mettre 2 heures. Donc c'est ça. Donc les stats aujourd'hui, c'est devenu la mode, parce qu'il n'y a pas que là. Maintenant, moi, j'entends parler beaucoup, parce que la formation que je suis là, on est là-dessus, et on veut, comme le basket, en faire un outil maîtrisable, tu vois. Et on veut enlever les incertitudes du football, de plus en plus. Et donc on donne la parole aux gens, les statisticiens qui disent, oui, mais regardez, mais ça c'est du constat, c'est après, ça, c'est pas pendant, il y a le match là, vas-y, montre-moi comment on peut intervenir une stat sur un joueur quand il joue. Et la grande problématique, elle est là. Après, c'est pertinent parce que tu dis, et c'est les choix. Et moi, j'aurais dit, oui, j'aurais voulu voir ce que tu peux mettre, toi, en termes de statistiques, c'est ton niveau de compétition. Tu joues où? Et tu crédibilises où ce critère quand tu joues en Ligue 1 en France, en Ligue 1 à Londres, en Angleterre, en Ligue 1 en Allemagne, et quand tu joues en Ligue 1 aux Pays arabes.
Très bien. Merci, coach. On marque une première pause. Dans un instant, vous allez voir. Je vais essayer de faire un petit comparatif de travail sur le long terme et vous allez comprendre pourquoi.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Bien entendu, même si je sais que le standard n'arrête pas, il y a d'abord un principe dans cette émission. C'est d'abord l'analyse avec l'équipe. Ensuite, doucement mais sûrement, on interviendra du côté du standard. Et comme vous le savez aujourd'hui, il y a une deuxième partie qui n'est pas football, mais qui est réservé aux Jeux méditerranéens. Donc, on va voir comment on va jongler. Alors, ce qui est certain, c'est que je voulais faire un parallèle, messieurs, pourquoi c'est juste un comparatif. Je prends ce que a fait Jamal et ce que a fait Fabien Galthié dans le rugby français. Il est parti sur un groupe de 42 joueurs qu'il convoque au gré des matchs. Il a mis 2 ans et demi et il a bâti un groupe aujourd'hui qui est capable d'aller quasiment voir gagner une Coupe du Monde. Donc, quand Galthié avait parlé, il avait parlé du staff. Il a mis en valeur le travail des éducateurs, c'est-à-dire ceux qui sont allés chercher les garçons qui ont fait les compétitions championnats du monde des U20, etc. et tout. Donc, nous aujourd'hui, dans l'équipe d'Algérie, on va chercher des joueurs à gauche, à droite. Mais jamais on a donné de l'importance à tous ces gamins des U20, des U23, qui auraient dû être la réserve de l'équipe nationale. Donc, à chaque fois, on bricole, on fait comme on peut. Et on demande à Belmadi de réaliser l'exploit. Je ne sais pas si exploit, en tout cas s'il y est, on ira tous danser, hein, y a pas de doute. Mais aujourd'hui, comme Ahmed avait posé la question, coach, alors, c'est quoi ce critère de choix à chaque fois? Un tel joueur à tel endroit, un tel joueur dans tel pays, etc. Est-ce que c'est le bon critère pour faire une sélection?
Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. C'est le football algérien dans son ensemble qu'il faut rebâtir. On le sait. Surtout la formation qui existait une période dans les années 60, 70, 80.
Oui. Parce qu'on a vu, excuse-moi, juste avant que tu continues, on a vu récemment un appel d'offres qui a été lancé pour retenir le nom d'un DTN. Ouais. 26 candidats, enfin dans une candidate, pour le poste de directeur technique national, comme si M. Kourichi Taoufir, de son prénom, n'est là que de manière provisoire. Toujours provisoire.
Et encore, voilà. Sur les infos que j'ai, c'est pas encore décidé, loin de là.
D'accord.
Oui. Il faut remettre en place la formation. Mais à partir du moment où tu as un pays qui forme tes joueurs, qu'ils appellent les binationaux, qui te sert une sélection jusqu'au niveau des U17, 18, qui te sert une sélection. Pourquoi veux-tu tu t'emmerdes, toi, dans un pays dont le fonctionnement n'impose pas à ces gens-là, parce qu'ils n'oublient pas qu'ils touchent de l'argent public, et la logique voudrait minimum, c'est que leur mission soit vraiment de former des garçons, on va pas leur dire du très haut niveau, mais au moins d'un niveau stable. T'as pas ça, t'as rien du tout, t'as pas de stade, t'as aucun équipement, t'as pas les formations d'entraîneurs, les formations de joueurs, les formations d'arbitres, et tout ce qui va aujourd'hui dans le sport de haut niveau, on ne le calcule pas. Eux, on a pris cette habitude de regarder ça à la télé. Nous, on regarde les matchs. Pour eux, leur équipe leader, c'est ce qu'il y a à la télé. Leur propre club, leur propre pays, leur propre ville, leur propre village. Ils n'en ont rien à faire. Si ce n'est qu'une personne qui a un certain âge, qui va prendre des ballons, qui va prendre des mômes, qui va jouer avec eux. On est encore dans cette logique-là des années 70. Et quand je te dis, j'arrête pas de te dire, quand dans la mondialisation, on est en place, et quand tu es dans un football aujourd'hui qui est devenu hyper scientifique,
oui.
Quand on parlait encore des stats et tout, t'as vu le poids que Ahmed met dans ça, en disant que ouais, c'est une crédibilité. C'est crédible aujourd'hui les stats. Faut les prendre en compte. Oui, il faut les prendre en compte. Il faut déjà avoir les instruments, il faut savoir les utiliser déjà. T'en es même pas à ce niveau-là. T'es même pas à ça. Nous aujourd'hui, on l'est. Au niveau européen, c'est encore pire. Regarde sur les bonnes touches, les mecs, les outils qu'ils ont à chaque fois, et ce qu'ils balancent comme information, parce que l'information doit aller vite, et très vite. Parce que tu vas louper quelque chose. Donc quand tu es là-dedans, comment tu veux, toi, aujourd'hui, parler des formations U18, U20, ou l'équipe de France de rugby, qui elle est à l'apogée. Ce qu'ils font au rugby, ils le font au handball. Hein.
C'est ça, oui.
C'est
oui,
la même
oui.
chose. Oui. Comme ils font l'équipe de France. Hein. C'est comme j'ai expliqué à des gens il y a longtemps. Je dis, moi, je connais très bien, si à Clairefontaine, l'équipe de France, ils connaissent très bien l'équipe de France dans 10 ans. Hein. Les entraîneurs qui sont en place, ils savent déjà qui arrive. Mbappé, il le connaissait depuis 10 ans. Oui. Il arrive. Il arrive le phénomène. Donc, quand tu es là-dessus, tu veux, t'arrives dans une échéance comme là et tu dis, ah, mais nous, on fait comment? Mais on ne fait rien. On ne fait strictement rien. La seule chose que j'ai, c'est que. Mon ami, monsieur le ministre, qui va parler au téléphone, c'est le seul qui avait ce projet-là dans les années 2000, bien avant. Ouais. Sur ce projet-là, il était. Et on lui a dit, non, c'est pas pour toi.
Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, Jamel, passe pour l'expression, travaille avec les moyens du bord.
Il travaille comme nous, on le travaille.
Bah oui, c'est ça, comme vous.
Il est un peu plus informatisé, oui. C'est tout, il y a un peu plus de matériel. Il a peut-être un peu plus de gens qui vont aller voir les matchs à droite, à gauche.
Oui, je pense, oui.
Et voilà, il sort pas plus que là. Il va regarder la presse, il va regarder les gens, il va être à la télévision, il va voir des joueurs, et il va peut-être, s'il a la chance d'aller les voir et d'aller discuter avec eux, de voir un peu leur profil. Mais après, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Ça, c'est de plus en plus compliqué. Avant, tout le monde était au même niveau. Maintenant, le Sénégal, le Cameroun, ils utilisent des moyens informatiques aujourd'hui, ils ont tout.
Sofiane, alors, avant de me répondre, alors, Sofiane, je veux juste que tu me fasses d'abord cette liste des gardiens et des défenseurs. On sait que les gardiens, ça ne change pas. Ils sont trois, c'est
Mboli, ça ne bouge pas. Ouais. Il y a Oukidja et il y a Mustapha Zerba, je crois, qui joue en Arabie Saoudite.
Oui, oui.
Mustapha Zerba, je connais pas.
C'est un ancien du CRB, il me semble. Hein.
Je connais pas.
Ouais, voilà.
Après, dans les défenseurs, Mandi, Bedran, Tahrat, Ben Lamri, Ahmed Touba, Youssef Attal, Ben Ayada, Laouafi, Ben Sebaïni.
Voilà. Alors, Laouafi, c'est un latéral droit. Qu'il a ramené de l'étoile du Sahel, d'ailleurs qui ont été battus par le CRB 2-0 en coupe d'Afrique, et qui a permis au CRB de se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Ça, c'est une petite précision. Donc, ça remplace Hleimia, je crois. Il y a d'autres arrières droits d'autres défenseurs qui ont été éliminés dans cette sélection, Sofiane.
De mémoire, t'as Tougaï qui était pas là.
Tougaï aussi.
Tougaï qui était, qui a fait la. T'as Chetti qui n'a pas été retenu.
Exact.
Voilà. Et là, dans les latérales droits, si on prend le poste de latéral, t'avais. On a parlé des Dadka, bon, qui n'a jamais été sélectionné, donc apparemment ça n'a pas satisfait Jamel Belmadi. Et de mémoire, de mémoire, c'est.
Jahlemia aussi.
Jahlemia qui tenait la corde à ce poste-là, ouais. Et oui, Mehdi Zéphane, voilà, qui lui, est définitivement sorti des plans de Belmadi.
Ouais. Pourquoi il joue, là, Mehdi Zéphane ?
En Turquie. Comme avait dit Mali, quoi. Ouais, c'est en Turquie.
Très bien. Alors, Ahmed, tu voulais rebondir.
Oui, je voulais rebondir sur le thème ou la notion de la formation. Comment parler d'outils ? D'outils technologiques, les formations, ce qu'on a besoin pour développer une profession. Eh bien, la formation, souvent on parle de formation dans le football. C'est comme si on veut faire du copier-coller de certains pays, principalement la France. Mais la formation, regardez les Allemands, il n'y a pas que dans le sport. Le CAP en Allemagne, dans l'industrie légère ou lourde, mieux qu'un docteur chez nous, dans la même branche. La formation est très importante dans une société. Nous, en Algérie, il n'y a pas de volonté politique de former les jeunes dans leur métier. Vous imaginez dans le football. Mais ça ne leur dit rien du tout, la formation. C'est un mot dans leur tête, formation. Pour eux, c'est de lire un livre, il est formé. De faire copier-coller sur YouTube, il est formé. Non, mais je vous assure, hein, ils pensent que la formation, c'est quelque chose de simple. La formation, c'est un investissement. C'est des gens qui passent, je dirais, des années à mettre en place la logistique, je dirais, le contenu, avec des objectifs, etc. etc. Deuxième remarque par rapport à ce qu'il disait, c'est quels sont les outils indispensables ou utiles, d'accord, aujourd'hui pour la sélection, par exemple. Sur quoi Jamel Belmadi travaille au niveau, par exemple, l'espionnage de l'adversaire, l'analyse de l'adversaire. Oui, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les statistiques. Moi, d'après mes infos, c'est quelqu'un que Jamel paye, apparemment, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est à vérifier. Et cette personne-là, avec ses logiciels propres, que lui-même achète, fait de l'analyse, il donne ses analyses aux sélectionneurs. Moi, je trouve encore pas normal que la sélection algérienne, la fédération algérienne, n'a pas d'outils appropriés, modernes, alors que sur le compte quand Traoré est sorti, il y avait pas mal d'argent, si ma mémoire est bonne.
Ah oui.
Donc on pouvait investir dans ces outils, former des spécialistes pour aider le sélectionneur dans toutes les catégories à prendre des bonnes décisions, ne serait-ce que lui donner ces données-là. C'était juste de remarques.
Alors une précision quand même, je remercie notre ami Mahalz. C'est ce que j'ai dit à nos auditeurs, j'aurais du mal ce soir à vous prendre au téléphone. Donc vous pouvez m'envoyer vos messages via Messenger, je répondrai. Là, par exemple, pour Zerba, donc, il m'a dit qu'il a joué à Sétif et peut-être même à Constantine, alors que au CRB, c'est Gaïa Merbah, qui est aujourd'hui le gardien du Raja de Casablanca. Voilà. Merci pour la précision, Marc.
D'accord. Alors, c'est toujours un petit peu ambigu entre ces questions-là, mais s'il faut y aller, il faut y aller. Il faut bien comprendre, derrière le mot formation et derrière le mot compétitivité, au niveau équipe nationale, faut bien comprendre où est l'Algérie dans le monde du football. Genre aujourd'hui, si on doit créer un classement, on est où? On est situé où? Tu es situé où? Là, tu disais tout à l'heure, tu expliquais que le mec, il va... Je connais bien ces histoires-là. Il y a des sites aujourd'hui qui ont... qui filment tous les matchs dans le monde entier. Tu t'abonnes et tu vois les matchs là-dessus.
Voilà, alors, si on regarde le fameux classement FIFA, on est dans le top 40.
Hein, voilà. Oui, non, mais ça, c'est les résultats. Moi, je parle du contenu de la formation.
C'est autre chose,
là. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. On n'est pas dans le même monde. Et ce que je voulais te dire, moi, il y a longtemps, j'avais demandé, il faut un observatoire du football, africain surtout. Un observatoire, c'est des réunions de personnes qui sont là et qui observent tout le football avec des thèmes bien précis, sur des pays bien précis. Ils en sont où? Quand tu viens, c'est ce que fait la France. Ils ont cet observatoire-là. Ils ont cette analyse vidéo où tu rentres dans une machine, tu te crois dans une soucoupe volante, où ils ont 6-7 mecs qui bossent sur tous les matchs de football sur Terre. Ils les ont. Et ils ont une analyse dessus. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont surtout, ce que Jamel n'a pas du tout, le jour du match, tu as un espèce que je connais bien, qui prend Jamel et c'est lui qui lui explique comment joue l'équipe en face. Avec tous les paramètres. Tu vois pas l'outil que c'est pour l'entraîneur? Du moins pour sa sincérité dans ses actes après, dans ce qu'il va construire dans l'équipe, il arrive avec des données précises, mais extrêmement précises. Il n'y a pas de pipoterie, il n'y a pas. Et donc, on dit qu'on est où, nous? Toi, tu es dans l'âge primaire, tu es au 13e siècle, tu es en bas, tu frottes avec Dosilex, et tu es en train de brailler à la radio ou à la télévision, ou le président, je sais pas, on va gagner. Tu vas gagner quoi aujourd'hui? On l'a vu, le Sénégal, regarde déjà le Sénégal. Comment ils ont maîtrisé le sujet sur la Coupe d'Afrique?
Entre 2019 et 2022,
tout à fait. Regarde la différence.
Finaliste et vainqueur.
Ouais, regarde comment ils l'ont gagné. Et regarde l'entraîneur qui est derrière lui. Bon, on est dans une concurrence économique, oui. On dit concurrence qui est là. L'espionnage, comme disait notre ami Ahmed.
Ouais.
On est dans l'espionnage. Bon, ça, tout ça, on les connaît, ces outils-là. Mais tu es aussi sur quelque chose où tu dois, vis-à-vis le rendu du joueur, tu vois, le joueur, quand il joue, il doit savoir qu'est-ce qu'il a fait. Aujourd'hui, tu ne peux plus laisser partir un joueur. Et le mec, il dit, alors, on a gagné, ouais, c'est bon, non, c'est mort, ça, fini, ça. Normalement, tu prends avec ton CD, tu rentres chez toi, tu vas voir ta partie, ton match, et regarde ce que tu as fait. Et là, tu es dans ces logiques-là, tu es dans le très, très haut niveau. Là, on n'y est pas, nous, on est encore dans les archétypes je suis dans l'antichambre du football d'il y a 30 ans, bah, 50 ans.
Alors après les gars, vous avez élargi la perspective, c'est très bien. Mais en fait, pour moi, ces débats sur la formation, je les entends depuis que je suis tout petit. Comparaison avec l'Égypte, comparaison avec la Tunisie. Et en fait, on a l'impression qu'avec cette
pire que ça, c'est pas depuis que tu es petit. Depuis que je suis petit, moi. Enfin,
tu vois.
Et donc, voilà.
Mais le truc, c'est
parce que le vrai problème, c'est sport à l'école.
Oui.
C'est pas le football le problème. C'est sport à l'école. C'est la base. C'est le socle.
Est-ce que tu as vu Nasser, la proposition faite par les candidats à la présidence sur
cette
demi-heure supplémentaire quotidienne à l'école.
Enfin,
parce qu'ils savent que combattre les maladies, il y a rien de tel que l'exercice physique.
Tout à fait.
Voilà. Vas-y, Sofiane, je te laisse continuer.
Non, je vous pardonne. Je disais, parce qu'on parle de cette confrontation d'aller-retour contre le Cameroun, vous avez élargi la perspective sur la formation. Le truc, c'est que ce que je veux dire, c'est que ces débats-là, on les entend, même depuis que je suis à Beurre FM, on les fait à chaque fois. Ce qui est marrant, c'est que quand on a gagné la CAN en 2019, tous ces débats sur la formation, ils sont passés par pairs et profils, on n'en a plus reparlé. Personne n'a reparlé de la formation.
Bah parce que la France a formé.
Parce qu'on a gagné un trophée.
Oui.
Donc on s'est gossé, on avait la meilleure génération du monde, etc., etc. On devait même gagner la Coupe du Monde, on devait même battre la France, j'ai entendu. Oui. Mais le truc, c'est que moi, sur le cas précis de Djamel Belmadi, en l'occurrence, et de la séquence-là, alors évidemment que c'est pas peut-être représentatif de la formation algérienne. Néanmoins, j'ai fait la liste des joueurs il y a une semaine, il y a quand même un réservoir de joueurs. Pour cette sélection, pour l'Algérie, ce que c'est-à-dire un pays modeste du football mondial, franchement, qui est pas mal du tout.
Il faut le dire, ça, ce que tu dis, pays modeste, c'est bien de le dire.
Ouais.
C'est bien de dire que le rang,
pays
modeste, il est bien là.
C'est vrai, c'est ça.
Expliquer aux gens, parce que sinon,
même en Afrique, pays modeste, aujourd'hui. Ouais. Hein.
Oui. Non, mais c'est bien dit.
Oui.
Voilà. Très bien. En tout cas, c'est très passionnant. Allez, on se retrouve juste après cette seconde pause.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Troisième et dernière partie de cette première heure d'émission. Donc juste un petit message pour Sofiane. Oui, donc ce que tu dis, Sofiane, Mahrez le confirme et il le dit, j'affirme et je le confirme. Tu peux le dire à Sofiane. Et puis il passe un petit bonjour également à toute l'équipe, Ahmed, coach, etc. Et puis de toute façon, on verra ça vendredi soir. J'ai envie maintenant de revenir sur ce milieu. Visiblement, ça va être la grosse bataille. C'est la bataille du milieu de terrain. Tel que c'est parti, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ce sera genre Adeline Guedioura, Ismaël Benacer, Hicham Boudaoui. Il y aura un seul joueur en pointe, ce sera sûrement ou Belaïli ou Mahrez, peut-être à moins que Mahrez décroche. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il va jouer en 4-4-2, peut-être que même en 4-5-1, Nasser.
Bien sûr, bah oui. Ouais. Oh là là, tu vois, le match de Rome, Lazio, excuse-moi, là, ouais. 3-0 pour la Rome, tu vois les buts.
Pour l'AS Rome.
L'AS Rome, oui, pour la Roma, on dit. Mais nous, les Italiens, on dit la Roma.
Oui, la Roma.
Les Gallegos aussi.
Et la 3-0, et pour Mourinho, magnifique. Oui, ouais, bien sûr que la bataille va être au milieu. Après, le choix des joueurs, c'est Djamel qui a les clés, parce que c'est lui qui maîtrise les fameuses données. Ce qui va être important, surtout, c'est d'empêcher les centres et d'être... empêcher les centres et surtout d'aller empêcher les coups de tête de nos amis, que ce soit le Lyonnais ou que ce soit le celui-là qui m'impressionne un peu plus, je sais plus comment il s'appelle, le grand là de Babar, c'est qui, comment il s'appelle, Soufiane?
Aboubakar,
ouais.
Ah oui, tu parles de qui, de l'avant-centre, Vincent?
Ah oui, c'est
là, il joue en Arabie Saoudite, mais
ah oui,
meilleur buteur de la CAN, hein.
Oui, mais j'ai vu.
Mais ce garçon Nasser a connu toutes les sélections. Moi, ouais. je l'ai connu en 2009,
ouais.
quand j'ai commenté la CAN U17 en Algérie,
ouais.
il était à l'avant-centre du Cameroun.
Tu vois?
Donc, à l'époque, il a marqué 0 but. Hein,
donc s'il y avait un objectif, dans un match comme ça, l'objectif, c'est pas de centre. Sinon, si les centres affluent, en voiture, en voilà, t'es mort. Je te le dis tout de suite, pas besoin d'acheter midi à 14 ans. Après, j'espère que j'arrive à être capable de remonter les lignes, de coller, d'aller serrer les côtés pour empêcher les mecs centrés facilement. Ça risque de nous, après, de. Parce que quand tu rentres dans ce style-là de jeu, et après, ça peut ouvrir.
Mais c'est fatigant, Nasser.
Ouais, ça peut ouvrir à d'autres choses pour l'Algérie derrière. Tu vois, dans le jeu.
Parce que défensivement, c'est ce que j'ai remarqué pendant toute la CAN, défensivement, le Cameroun n'est pas impressionnant. Oui, n'est pas rassurant non plus.
Mais tu vois, pour le match de la Coupe du Monde, là, tu vois, si.
Oui, bah, ouais, mais.
Ça va pas être le même mec, hein.
Ah, mais je le sais, et même.
Ne confonds pas les deux compétitions. Quand t'as fait une Coupe d'Africaine, oui, tu peux être. Les joueurs n'étaient pas extraordinaires, les automatismes n'étaient pas assez huilés, n'étaient pas là. Mais sur un match, deux matchs là, tu vas voir, hein. Tu vas voir les joueurs, attention, hein. Ça va pas être 2-3-0 ou 1-0, hein. Ça peut faire du 3-1-3-2, ça peut aller faire du 1-0 chez toi, ouais. Ou ça peut. Sachant que le Cameroun, quand même, a des éléments. De folie, ils ont numéro 10, là, j'ai plus de son nom, là, qui a un pied gauche, mais qui est une des nouvelles stars du Cameroun. Ah, il y a du monde. Ils ont du monde. Ils ont toujours eu des grands joueurs. Après, nous, l'amalgame, faut pas qu'elle. Après, faut que l'Algérie elle, ne regarde pas l'équipe. Faut qu'elle ait aussi, elle a posé ce qu'elle veut mettre en place. Après, devant, un point, ce sera sûrement Slimani. Peut-être Belfodil. Mais bon.
Mais comme tu l'as dit, Nasser, peut-être que Jamal doit dire au capitaine, voici les clés de la maison. Maintenant, sortez-moi le match.
Il y a plusieurs pas qui est capitaine, plusieurs joueurs. Il faut beaucoup de joueurs.
Ah, d'accord.
Plusieurs joueurs du groupe.
Alors, ce qu'on appelle les joueurs cadres. Voilà, aujourd'hui, exactement. Les joueurs cadres, je peux les citer, les joueurs cadres. Hein.
Ouais,
c'est Riyad, c'est Benasser, c'est Adlan.
Ben Sebaini.
Tu
ne mets pas dedans, toi ?
Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je mets Mboli, je mets Mandi, je mets Belhamri, je mets Slimani et je mets Mahrez. Le reste, bouge pas. Ça bouge pas. Pour moi, c'est la crédibilité qu'il peut y avoir sur cette équipe-là et sur ce qu'ils vont pouvoir produire ensemble.
Oui, alors, d'ailleurs.
Que n'oublie pas que le projet de jeu qui va être prévu pour ces matchs-là, oui. Sur les deux matchs-là, il faut obligatoirement l'aval de ses joueurs. Hein.
Bien sûr.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que, oui, ça peut créer une tension, c'est ça ?
Bah, faut le dire. Non, mais faut le dire. Faut le dire quand tu es en conférence de presse. Faut le dire. Moi, j'ai dit, quand j'ai pris Moussa Saïb et Tasfaout, et Diri, j'ai dit les trois modèles sont là. Plus Chico, putain.
Ouais.
Voilà les quatre repères de l'équipe. C'est avec eux, je discute de ce qu'on met en place. Mais c'est lui aussi la même chose, elle doit être là, elle doit commencer par là, du moins.
D'accord.
Moi, dans le milieu, là moi, je pense, hein, Ben Nasser, comme d'habitude.
Oui.
Adlen.
Ben Nasser qui a été encore hier ouais. XXL lors du match.
C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas lui mettre de pression supplémentaire sur lui.
D'accord.
Il faut laisser jouer lui.
Ah oui.
Ça, si
oui.
Tu le mets dans le groupe des gens qui vont cadrer, c'est vrai qu'il y aura la responsabilité des autres. Et donc, tu vas te retrouver à gérer, même lui va gérer les autres. Non, lui, il ne gère pas les autres. Il gère, lui, son terrain, son match.
Mm-hmm.
Tu comprends ? C'est pas la même chose.
C'est important, ça.
Quand je te parle des choix des joueurs,
oui.
Quand je dis Slimani, Mahrez, je te dis Adlen, je te dis Mandi, je te dis Mboli,
ouais.
C'est des gens qui ont des positions stratégiques sur le terrain et qui ont une influence sur les joueurs. C'est ceux-là qui vont pouvoir tenir le discours qu'ils auront déjà mis en place entre eux et qui vont diffuser dans les joueurs. Tu peux pas aller mettre 11 leaders, tu vas.
Ouais.
Non, mais c'est important.
C'est énorme ce que je te dis là.
Du coup, la Sofiane, avec les joueurs qu'on vient de citer, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui, du milieu qui. Bien sûr, il fait confiance, bien sûr, à Ziroki. Est-ce qu'il va le faire jouer au Cameroun ?
Moi, je pense qu'il va le faire jouer.
C'est ça.
D'accord.
Je suis convaincu qu'il va le mettre, moi.
Ce que je voulais dire, moi, je dis Ben Nasser. Il va garder Zalouki. Il rajoutera Adlen Guedioura.
Pour couvrir Guedioura, ouais.
Et je ne pense pas que Adlen va faire les 90 minutes. Hein. Moi, je pense pas. Mais je pense qu'il sera remplacé par des joueurs vifs, souples, comme Bendebka et Boudaoui la seconde période.
Alors, il y a juste une question que, en même temps, je me permets de poser au coach. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais dans la liste, moi, ce qui me dérange un petit peu aussi, c'est que ça manque. On essaie de se projeter dans ce match contre le Cameroun. À un moment donné, c'est pas que le 11 entrant qui va faire la différence. T'as besoin de mecs qui vont rentrer en cours de jeu.
Ouais.
Un joueur comme, par exemple, Belkebla devant la défense pour fermer, à un moment donné, il aurait pu avoir, je donne des noms comme ça, hein, à la va-vite. Devant, peut-être, je sais pas, moi je suis pas fan de Brahimi, mais sur 20 minutes, t'es mené, par exemple, à Blida, t'as un but à aller chercher, sachant qu'on sera en fonction du scénario. Je trouve que sur le banc, quand je vois un 11 que tu peux coucher sur une feuille, je vois pas qui c'est que tu peux faire rentrer en cours de jeu et qui peut t'apporter une différence
défensive ou offensive.
Les deux, en général.
Forcément.
Moi, je pense Bendebka et Boudaoui, deuxième période.
Boudaoui, par exemple, je le ferai débuter. Mais...
Parce qu'au début, coach disait qu'il ne faut pas laisser l'adversaire faire des centres, c'est ça. Les deux, la seconde période, comme c'est des joueurs vifs, ils sont souples, ils sont un peu partout sur le terrain, ils sont endurants. Je pense que la seconde période, deux joueurs peuvent apporter quelque chose. Moi, je pense. Mais les entrants, c'est toujours Ben Nasser.
Sachant qu'on a cinq changements. On a cette règle des cinq changements.
Oui.
tu vois.
Ouais. Non, mais c'est maintenu, hein, les 5.
Hein. Il y a quand même une chose qui est importante. Vous êtes dans un match international. Vous êtes dans le top niveau mondial. C'est-à-dire que les joueurs que tu vas voir, c'est pas les pieds carrés en face de toi. On n'est pas dans des schémas en disant première mi-temps, on va faire ça, deuxième mi-temps, on va avoir du... C'est pas comme ça que ça marche, le haut niveau. Au niveau, il faut dégager une puissance, surtout la puissance défensive. Ouais. Et elle est complète, elle est globale sur toute l'équipe. Elle impacte tous les joueurs. Si tu chopes cette dimension et tu sens que dans le match, l'équipe est dans ce registre-là, c'est fini. T'as mis ton empreinte sur le match, et là, le match va se passer comme tu veux qu'il se passe. Si c'est l'inverse, si tu as une défaillance aussi bien tactique que physique, où tes joueurs ne répondent pas, et ben que tu as remplacé par d'autres joueurs que tu n'es même pas sûr, que tu ne connais pas, même pas sûr qu'ils vont répondre, là tu rentres dans l'expectative et tu rentres dans les grandes problématiques là-dedans. Mais il est vrai, hein. C'est l'histoire de la puissance et de l'empreinte dans le jeu qui va primer dans ce match-là. C'est ce qu'on coûte, on est, mettons, 20 minutes, 20,
c'est
25 minutes.
Généralement, c'est. À mi-temps. On a dit le fameux quart d'heure.
Qui
sera pas un round d'observation. Je pense que
ça va dépendre des choix des coachs et comment ils vont vouloir emballer le match et qu'est-ce qu'il va vouloir faire. Si Jamel a décidé de prendre la conservation et de les faire courir, ce serait une bonne chose, surtout à l'extérieur. S'il a la capacité à faire ça, ça va être une chose importante, mais qu'on n'a pas l'habitude de faire, nous. Hein. Depuis les garçons, surtout la Coupe d'Afrique, on l'a gagné parce qu'on avait de la profondeur de jeu et qu'on avait Bounjar qui amenait la puissance physique et que Belaïli amenait un peu la technique. On a fini bon. Là, aujourd'hui, on n'a pas vu ça dans tout le match. Donc, il est important quand tu vas comme ça dans les pays comme en Afrique, c'est de prendre le ballon et de séquestrer le ballon. C'est-à-dire quand tu as le ballon, tu redonnes une balle de tennis.
Alors, tu m'as parlé des Golgoths.
Sur les corners et les coups francs, tu vas voir
oui,
ce qui arrive.
Mais je veux dire que c'est vrai, aujourd'hui, Bounjar a été écarté, une remise en cause, etc. Toi, tu l'as dit, devant les défenseurs camerounais, il faut un gars grand et physique qui répond à ce défi.
Non, mais en plus, ils sont grands, physiques, ils sautent haut, ils ont une détente. Moi, j'ai pris ça du handball il y a longtemps. Ouais. Avant, au handball, on mettait des petits nains, des pivots, parce qu'ils tournaient vite. Ouais. Aujourd'hui, les mecs de 2m10, ils tournent aussi vite, ils tournent aussi vite que le petit avant. Ouais. Donc, on met maintenant des mecs, t'as vu, le handball, c'est.
C'est des armoires à glace.
Bah, tous. Sinon, faut que t'aies une souplesse de folie, une vitesse gestuelle de folie pour passer. Sinon, tu passes pas. On sait que c'est là. Et nous, en Algérie, je le redis jamais assez, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu une équipe nationale, c'est quand sur le plan défensif, on avait défensivement des vrais garçons. Tu vois? Et au handball, il est là, Salim pour expliquer. Si tu n'as pas ce niveau physique, ces morphotypes de joueurs-là, mais tu n'existes nulle part. Comment tu vas aller jouer, toi, dans ce monde-là? Ben, nous, c'est pareil. Sur le plan défensif, quand tu es dans une équipe qui est des nains, les Camerounais, ça, il n'y a pas tes joueurs. Ils vont les regarder, ils voient tes joueurs. Qu'est-ce qu'il va faire, le coach? Il va dire, écoutez, il faut aller chercher là-haut, chercher la puissance, devant le but. Direct, tu vas te la faire, direct. Et là, tu vas dire, on a reçu. Oui, t'as reçu rien du tout, mon frère. Rien.
Parce que là, du coup, est-ce que d'après toi.
N'oublie pas que comment j'ai joué le match du Cameroun, je l'ai joué, on a perdu 2-1, mais bon.
Oui, j'ai
sortir. Ouais. Mais là, c'est Marc-Julien Fouet qui marque. Hein. Et moi, pendant toute la semaine avant le match, là, je cherchais comment le bloquer, lui. Hein.
D'accord.
Il saute à une hauteur.
Oui.
Oh là 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 là.
Là, son âme, mort au milieu de terrain, Mskine à Lyon, ouais.
Tu vois, des confirmations,
Justement.
C'est ça le truc qu'il a. Il est là le match, il n'est pas ailleurs.
Tu joues avec qui là? Avec Belaïli ou avec Mahrez ou les deux?
Oui, bien sûr. Mais après, il y a deux matchs. Et dans les deux matchs, tu peux y mettre plein de choses dedans.
Ouais, d'accord.
Après, tu peux. S'il est malin, il est filou, il va laisser première mi-temps, il va laisser Mahrez sur le banc, il va faire commencer les joueurs. Et lui, il va le faire rentrer 20-25 minutes en sachant que demain, il a trois jours après, il y a un match. N'oublie pas que trois jours après, il y a un match.
C'est ça.
Il peut avoir cette solution-là. Après, s'il enlève Mahrez aussi, tu vas redonner confiance aux mecs. Quand ils vont pas le voir sur le terrain, il est pas là, lui, on enlève un poids. C'est qui le poids de l'équipe nationale? C'est lui.
Ouais.
Tu comprends? C'est pour ça que j'ai un garçon comme Bounjar, je suis étonné du choix de. Mais bon, après, il peut justifier. Mais je suis étonné, parce que lui, si tu te diriges, tu discutes réellement avec lui, c'est le seul attaquant que j'ai vu, moi, algérien capable de péter les défenses africaines, comme il l'a fait en 2019 et tout.
C'est ça.
Et il l'a fait pendant tout le parcours. Et là, sur le match, on l'enlève. En plus, ça coupe la relation Belaïli, lui. Hein.
Ouais.
Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je pose la question, moi.
Ouais. C'est pour cette raison-là, moi, je pense qu'il va mettre. Comment il s'appelle
Belfodil.
Non, Rachid Ghazal.
Ah oui, Rachid Ghazal, oui.
C'est lui, Belaïli, il ne va pas jouer.
Voilà.
Ouais, il va rentrer peut-être seconde période.
Il est gaucher comme
Mahrez. Mais il y aura.
Ah oui, Rachid, il est gaucher.
C'est ça. Donc ouais. il va mettre Rachid, Mahrez et Islam Slimani devant.
Ouais. C'est ça. Sauf que, alors, Mahrez, c'est un gaucher qui joue à droite. Hein.
Faut savoir. Ouais. Faux pied. Tu vois, donc c'est les trois. Moi, je vois les trois devant. Au niveau de la défense, il va mettre.
Ahmed, même si tu dis 3, mais je ne pense pas que dans le schéma de jeu, il va mettre 3 attaquants, j'y crois pas. Hein.
Moi, je pense Douala,
que pour moi, il jouera avec un attaquant de pointe.
Oui, mais
je veux dire les concepts de jeu. Il faut pas que tu joues devant ton but. Faut que tu aies une défense très haute. Faut que tu ailles chercher très haut. Obligatoirement. 2, faut harceler le porteur pour pas qu'on ait sur des profondeurs de jeu. Ça, c'est décidément le plus important. La troisième, c'est est-ce que tu es capable dans le jeu aérien de te comparer avec eux. Peut-être Benhamri un petit peu de la pipe, mais bon, lors des matchs que j'ai vus contre le Sénégal, lors de la finale de la Coupe du Monde, je crois qu'il y avait corner, coup franc, j'étais comme un fou. Parce que je sentais que c'est des moments où ils peuvent te marquer à tout moment. C'est des trucs où le match ira rien du tout. Ils peuvent te mettre 2-0 en 2 minutes parce qu'il y a 2 coups de pied arrêtés où il y a 2 centres et tu n'as pas répondu à cette exigence-là.
Là où les Égyptiens les avaient éteints à la CAN.
Complètement ça.
Ouais. Ah, oui.
La défense, je pense qu'il va mettre Ben Ayada là. On peut le mettre.
Parce que les Égyptiens ont toujours compris à l'avance.
C'est qui lui?
Ben Ayada, c'est un joueur qui a joué à Coupe Arabe, qui joue en Arabie Saoudite et qui est latéral droit, je crois, c'est ça? Latéral droit, oui.
Il va pas faire jouer Blayley, je ne pense pas, moi. Blayley, il jouera pas.
Si tu ne fais pas jouer, pourquoi tu l'as à place à ce moment-là?
Blayley, 15 dernières minutes, oui. Un faux attaquant, peut-être.
Non, mais tu sens, parce que là, on est dans des.
Pour là, c'est de la spéculation, après.
Bon, écoutez, messieurs.
On va tourner l'heure.
Voilà, on arrive à la fin de cette première heure. Je vous l'ai dit, elle allait passer très, très vite. Maintenant, dimanche prochain, nous allons décortiquer les résultats allés de ces matchs de barrage.
Les autres matchs, là, ils ont lieu où et quand? Je ne sais même pas.
C'est les mêmes dates, qu'il y a quasiment. Il y a un jour d'écart, là.
Quelle chaîne qui diffuse?
C'est toujours la même. Ou alors tu vas sur les chaînes payantes. Parce que là, j'arrive à la fin. Dans deuxième heure, tout de suite, jeu méditerranéen, championnat d'Afrique de handball. Beaucoup de choses à vous raconter. À tout de suite.
18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bon, avant de prendre ce dossier, d'abord, je vais saluer quand même, mine de rien, l'arrivée de notre spécialiste de handball, Salim Nejjal. Salim, bonsoir.
Bonsoir, Mohamed, bonsoir à tous et bonsoir à tous les auditeurs de Beurre FM.
Bon, alors avant de parler jeu méditerranéen, je reviens vers toi, notamment sur l'explication que j'ai eue avec toi hier concernant les Jeux Olympiques et le handball. Donc tu m'as dit hier que Mohamed, l'Afrique, c'est un représentant.
Ouais, c'est le champion d'Afrique qui participe aux Jeux Olympiques parce que voilà, ça dure depuis un moment.
Ouais.
Et on a déjà crié au scandale comment ça se fait qu'il y a qu'une seule place qui est attribuée à l'Afrique. Donc voilà, ils ont décidé que ce soit le champion d'Afrique qui participe à cette compétition-là.
Ouais. Et que fait le deuxième?
Le deuxième, il est barragiste, il fait un tournoi qualificatif avec.
Tournoi qualificatif avec Qassah, quoi.
Ouais, alors, plus que Qassah même, parce que tu joues pas les pays, on va dire, faciles. La dernière fois, l'équipe algérienne a joué les Slovènes, elle a joué les Allemands, elle a joué les Serbes. Donc, pour se qualifier avec des équipes.
Combien de participants? Combien de participants pour les Jeux Olympiques, pour le handball? Combien d'équipes qui participent?
Les champions d'Europe, ils sont qualifiés directement. Ouais. Le champion du monde, il est qualifié directement aux Jeux Olympiques. Ouais. Et après, tu as quasiment tous les pays, on va dire, scandinaves qui sont là.
Le critère, c'est quoi? C'est lié au continent? C'est lié. Dans l'Afrique, tu n'as droit qu'à un?
Oui.
L'Europe, à combien?
L'Europe a plusieurs, parce que
et l'Asie est combien, ça fait combien?
L'Asie, généralement, c'est toujours le Japon ou la Chine qui sont là. On a les pays aussi de l'Arabie Saoudite parfois, oui. Parce que c'est plus simple là-bas de se qualifier. Ouais. Donc c'est à peu près comme le football. Les gens qui disent que c'est pas normal qu'on a combien déjà au foot?
Cinq.
cette équipe.
Ramsa, 5, oui, mais.
Ramsa, mais 5, c'est pas beaucoup, donc c'est.
Mais là, nous, à la fin, c'est 1 au long de balle, c'est un scandale.
Exactement, après, tu fais le tournoi qualificatif, t'es champion d'Afrique et que t'as pas beaucoup le.
Ça veut dire que si toi, en tant. Aujourd'hui, l'Algérie fait partie, on va dire, du top 3 à peu près. Ça veut dire qu'on a aucune chance de faire les JO.
Oui, à part que t'es champion d'Afrique.
Oui, mais sans qu'aujourd'hui, la Tunisie et l'Égypte sont devant nous. Hein.
Oui, bien sûr. Ça fait un moment qu'on parle de ça. Et oui, l'Égypte est devant nous. L'Égypte, j'ai vu un tournoi des cadets, des juniors. Ils ont d'autres générations qui vont faire mal à toute l'Afrique,
d'accord.
Voire au niveau mondial. Donc ils travaillent, ils sont là à former les joueurs et tout, parce qu'ils savent que c'est des générations qui passent. Et que nous, on reste encore sur des joueurs avec un âge
très avancé,
très très avancé, ouais. Mais parce qu'on forme plus personne et parce que le championnat il a été gelé pendant un moment. Il y a des problèmes. Toi, même tu le sais au niveau de la fédération. Donc, on a un autre bureau qui a été nommé il y a pas longtemps par le ministre des Sports et dont Kerimou Benjmil que je salue. Qui est mon idole déjà en handball, qui a repris, on va dire, la fédération. Donc, on a mis Ben Marsoula, ancien joueur aussi international, qui a travaillé aussi en tant que président à la bière et tout. Mais c'est un connaisseur, c'est un ancien champion, donc c'est le DTN. Et voilà, ils se sont entourés par des handballeurs et j'espère que ça va. Les Jeux méditerranéens, ça va donner un élan pour la suite.
Oui, parce que là, aujourd'hui, Salim, ce qui se passe, c'est cette différence dans l'organisation pardon, de ces épreuves, puisque on a bien dit, les Jeux méditerranéens vers le 25 juin à peu près, et deux semaines après, il y a le championnat d'Afrique de handball. Alors, est-ce que la sélection algérienne va choisir une ou deux compétitions? Sachant que, comme l'a dit Nasser, quand il a analysé l'histoire de la Coupe arabe et de la Coupe d'Afrique, on a vu, on l'a payé cash, quoi, au niveau algérien.
Oui, bien sûr. Non, normalement, si on peut jouer les deux, ça serait génial parce que l'équipe nationale va sûrement participer parce qu'il y a un changement, il y a un nouveau coach qui vient d'arriver, qui est un ancien joueur aussi de ma génération, qui est Rabah Gharbi, qui a entraîné l'équipe des U21 algériennes à Alger pour un championnat du monde. Donc, ils ont préféré lui donner, on va dire, la patate chaude à un moment où, voilà, c'est pas facile, ni pour les entraîneurs, ni pour le coach, ni pour le staff technique, ni pour les joueurs. Parce qu'on, maintenant, on sait qu'on a quasiment la majorité, voire plus, des joueurs, ils jouent en Europe. Et donc, c'est très, très difficile de faire des stages à Alger. Et on sait que les Jeux méditerranéens, ça va être vraiment un point de départ.
Oui, parce qu'il y aura quand même de vrais pays de handball, hein, comme l'Espagne, comme le Portugal, qui a fait de très gros progrès. On va retrouver, bien entendu, des pays comme la France, l'Italie, la Grèce.
Les pays méditerranéens.
On a 25 pays
normalement qui vont arriver, Inch'Allah, à Oran.
Ah oui, ça fait du monde là. Hein.
Le mois de juin, parce que la compétition normalement se déroule du 25 juin au 5 juillet. Mmh. Et en plus, ça tombe bien parce que ça tombe avec le 100e anniversaire de l'indépendance d'Algérie. Mmh. Donc ça va être une grosse fête, Inch'Allah, à Oran. Donc j'espère que tout est prêt.
Pour l'instant, il y a un problème de liaison. Sinon, justement, je voulais faire le point avec le commissaire de ces jeux, M. Aziz Delouaz. De toute façon, tout au long de l'émission, je vais essayer, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut bien arriver à ce que cette liaison passe. Mais si, malheureusement, avec les mobiles et le bled, des fois, la connexion s'arrête en plein milieu de la Méditerranée.
Ouais, bon. Moi, je voulais juste dire un mot sur mon ami Salim Ilès, qui est un ancien champion de
natation, ouais.
Qui a été directeur de ces jeux-là pendant 2 ans et demi. Donc, on a eu un changement il n'y a pas longtemps. C'est Aziz Delouaz, d'ailleurs, je le félicite pour ce poste, et qui a repris derrière. Donc, je tiens à le remercier parce que il m'a appelé pour me proposer d'être l'ambassadeur de ces jeux-là. et j'ai accepté tout de suite avec normalement avec notre champion aussi Majid Bougara.
Oui, c'est oui.
Ce qui c'était prévu. Donc on voulait savoir voilà comment va les choses, est-ce que ça on avance bien, est-ce que les infrastructures sont prêtes pour organiser ces jeux-là et voilà.
D'accord. Et en attendant, est-ce qu'aujourd'hui, au regard de la situation, la sélection algérienne va participer au championnat d'Afrique ou pas? On sait très bien qu'il y a eu une polémique qui a été née de cette organisation quasi simultanée du championnat d'Afrique et des Jeux méditerranéens, championnat d'Afrique au Maroc et les Jeux méditerranéens à Oran. Finalement, après plusieurs discussions ou des débats, je ne sais pas comment ils se sont déroulés, on a décalé légèrement ces championnats d'Afrique et de handball à juillet. Le problème va être très politique parce que, à la limite, que cette compétition se joue au Maroc, peu importe, mais effectivement, on a intégré la donne Sahara occidentale et là. Voilà, ça peut tourner peut-être au vinaigre. C'est-à-dire, en gros, c'est l'Algérie. Alors, si l'Algérie déclare forfait à ces championnats d'Afrique, quelles sont les sanctions qui sont prévues par le board du handball mondial?
Alors, je vais te répondre sur la deuxième question. Les conséquences, c'est que si l'Algérie participe au prochain championnat d'Afrique, ouais, elle n'aura pas l'organisation du championnat d'Afrique en 2024 à Alger.
Alors que donc l'Algérie était censée organiser ce...
Exactement, oui.
D'accord.
Donc ça, c'est la première des choses. Deux, on a un championnat du monde qu'on ne sera pas qualifié.
D'accord.
Dans les Jeux Olympiques, tout de suite après, en 2024. Et ça se passe où?
Après 2024, c'est aux États-Unis.
Non, en 2024 même.
Ah, 2024, c'est à Paris.
C'est
à Paris.
Là où il y a 5 millions d'Algériens, oui, qui, oui. Dans un pays où il y a 5 millions d'Algériens. Donc c'est très difficile... comme position, je crois que c'est vraiment, comme tu as dit, ça vient vraiment des responsables politiques. Donc nous, on a toujours suivi le barème, voire la charte qu'on a toujours signée en équipe nationale et qu'on s'est promis de la respecter jusqu'au bout. Je ne crois pas qu'ils vont changer, ils vont changer d'avis. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont décalé de peu la compétition, mais si tu joues avec les mêmes joueurs aux Jeux méditerranéens et en championnat d'Afrique, je ne crois pas qu'on aura le temps d'avoir un temps de préparation.
Bah, c'est ça, justement, oui, oui, oui.
Parce que tu sors quand même d'une compétition qui est les Jeux méditerranéens et que c'est très fatigant, parce qu'on joue pas mal de matchs, parce que moi, j'ai eu la chance de jouer les Jeux Med en Tunisie.
D'accord.
En 2011. Et franchement, c'est quand même pas mal. C'est des entraînements tous les jours, les matchs. Voilà, c'est une. Et après, on a le championnat du monde. On a le championnat d'Afrique, pardon. Championnat du monde, c'est la plus. J'espère que ça va. On aura le championnat du monde. Et tout de suite après, on a le championnat d'Afrique. Et le problème qui est posé, c'est l'endroit où tu l'as dit. C'est voilà.
Ouais. On a... C'est oui. En fait, ce problème, il est aussi du ressort de la Confédération africaine de handball.
Exactement.
C'est elle qui fixe le lieu de cette compétition. Mm-hmm. Est-ce que les dirigeants de la Confédération algérienne de handball sont prêts à aller au charbon contre l'Algérie?
J'espère pas parce que...
Parce que tel que c'est parti, ouais, la manière dont le projet est présenté, oui, en fait, la Confédération africaine, ils sont en fait en guerre. En gros, passe-moi l'expression, ils cherchent des noises, quoi.
Je t'ai toujours dit qu'on a à peu près les mêmes problèmes, que ce soit au foot et en handball, parce qu'au niveau à la Confédération, en fait, et on a des représentants. En fait, c'est très compliqué parce qu'ils se donnent des voix pour les compétitions, pour organiser. Chaque pays aimerait organiser les championnats d'Afrique, les Jeux méditerranéens, les Jeux olympiques, les matchs. Sauf qu'on n'a pas de la place pour tout le monde. Donc, ils essaient un peu de jongler un peu comme ils peuvent. Mais moi, je crois pas que ça va poser de problème avec l'équipe d'Algérie, parce que j'espère qu'ils vont trouver une solution pour, déjà, c'est le sport. C'est quand même, il y a des valeurs dans le sport. Et nous, si demain le ministre des Sports nous dit, plutôt dit à la délégation, ne participe pas, on participe pas à cette compétition, ben,
bah oui,
on va l'écouter parce que c'est les instances qui
décident. C'est au-dessus de vous, ouais,
exactement. Ouais. Et donc voilà, pour le bien de mon pays et pour le bien du sport algérien aussi.
Moi alors, j'ai une question. C'est,
oui, vas-y, la
cerveau. On en est où sur les installations concrètement? Mais concrètement, hein, sur toutes les installations, parce que c'est, je m'interroge, il faut dire oui à tout le monde, c'est quand même ces installations pharaoniques qui ont été mises en place. Le stade de Rang, j'ai vu, que j'ai vu en photo. J'ai eu la chance de venir avec toi, je vais visiter. Toutes les installations sont prêtes, piscine olympique, je ne sais pas, je pose la question.
On aurait bien aimé avoir Aziz ça, il nous donnera plus de détails. Mais moi, d'après mes dernières informations, Oran est prête pour organiser cette compétition. Parce que 80% de moi aussi, je reçois des photos, par exemple, des journalistes qui m'envoient des photos du Palais des Sports refait, des nouvelles salles. On a le nouveau stade du foot aussi, qui va être aussi après pour les finales pour tous les sports. Et à mon avis, il y aura pas de problème pour ces jeux-là. On est au niveau des infrastructures. Je sais qu'ils ont mis le paquet pour parce qu'il y a pas mal de changements des ministres, des walis à Oran. Donc voilà. C'est un peu difficile, mais voilà, on essaye de...
C'est combien de pays, le jeu méditerranéen?
Normalement, on doit avoir entre 23 et 25 pays qui vont débarquer à Oran, Inch'Allah, pour toutes les disciplines qui existent.
Il y a combien de disciplines comme ça, à peu près?
On a pas mal de disciplines parce que ça rassemble un tout, parce que c'est du handball, c'est du foot, c'est de l'aviron, c'est de la voile, c'est des tirs à l'arc. Il y a pas mal de disciplines. Donc j'espère qu'on sera prêt pour cette compétition là et que ça soit vraiment une fête déjà nationale par rapport à la date et surtout des jeux on va dire réussis. C'est ça qui est important pour nous.
Tu penses que le jeu méditerranéen c'est la première étape d'une future Coupe d'Afrique ou peut-être Coupe du Monde ou peut-être des Jeux Olympiques, je sais pas, sur 10-20 ans? Je pense que c'est un palier indispensable de passer par là.
Oui, une Coupe d'Afrique, ça peut s'organiser à Oran parce qu'il y aura, les salles qu'il faut. Et c'est pas parce que c'est ma ville, mais Oran, c'est quand même la deuxième ville en Algérie, après Alger. Et c'est quand même, on a pas mal de les gens qui viennent travailler, que ce soit la DGS à Oran, que ce soit les Walis qui viennent. Ils aident les clubs. Il y a pas mal de disciplines maintenant. On a repris un peu le judo. Il y a pas mal de disciplines qui reviennent un peu en force à Oran. Donc ouais, pour une Coupe d'Afrique, pour le moment, on peut organiser. Après un championnat du monde, c'est faisable aussi parce que voilà, il y a plus d'exigences par rapport au championnat d'Afrique.
Ouais. Et tu penses que ça va influer sur tout le pays? C'est-à-dire que bon, après Oran, on sait, mais il y a Constantine, il y a Annaba, il y a Alger, il y a beaucoup de villes.
Bien sûr. Moi, je pars sur le principe que c'est des jeux à Oran, mais c'est des jeux d'abord en Algérie. Donc les gens, ils vont découvrir l'Algérie. J'espère qu'il y aura des visites à faire avec ces gens-là pour leur faire savoir un peu comment c'est le pays, comment les gens y vivent et tout. Et en même temps, voilà, ça va générer de l'argent aussi pour la ville à Oran ou même les alentours, tout l'ouest algérien. Après, les gens, j'espère que les Algériens, ils seront en force à Oran pour supporter leurs équipes. Voilà. On aura aussi d'autres spectateurs européens et de tous les niveaux.
D'accord.
C'est un événement
important. Oui, non, mais moi j'imagine jamais voilà. Mais
moi j'ai connu les premiers quand j'étais en France, c'était en 2015 forcément.
Tout à fait.
Là, il revient comme ça en Algérie.
C'est le fameux match France-Algérie qu'il y a eu au jeu méditerranéen.
Ouais. Exactement.
Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 50 ans.
Ouais, ça reste. Ça marque.
Déjà, ce qui est un petit peu dommage, c'est que voilà, il y a M. Dirbois qui me répond, qui m'attend. Et malheureusement, on n'arrive pas à passer. ça me frustre un petit peu parce que on a tellement de choses justement
À
lui demander concernant ces jeux méditerranéens, comment, parce qu'il a repris le flambeau de derrière Salim Hilas, il faut le rappeler, et en plus c'est la présidence qui a fait appel à ses services et à ses compétences aussi, à son carnet d'adresse, on va dire, pour accélérer, quoi, parce que les jeux méditerranéens, c'est au mois de juin, hein, c'est bientôt.
Pour sa rigueur surtout, ouais. Je le dis.
Oui, oui.
Je le dis, surtout pour ça.
Oui, on sait qu'il a été aussi ministre des Sports et Aziz, voilà, il a été déjà joueur, entraîneur, et après, voilà, il sait faire. C'est quelqu'un qui connaît très bien le sport algérien et le sport en général. Et par contre, voilà, il faut que tout le peuple algérien soit derrière cette compétition-là, parce que c'est... Ça va faire vraiment du bien au peuple algérien et à tout le monde. Et en même temps, quand on reçoit comme ça des gens, nous on a dans toute l'Algérie, on a toujours appris à bien recevoir. Donc j'espère que ça sera une grosse fête nationale et internationale pour tout le monde. J'espère.
Et tu évalues combien l'impact public qu'il peut y avoir sur des jeux méditerranéens, parce que c'est chez nous, je sais pas, je sais qu'il y avait en Grèce à un moment,
oui.
Je crois, je me rappelle,
oui.
Ça. Mais l'impact qu'il peut y avoir autour de la Méditerranée sur les touristes, comme tu disais tout à l'heure,
exactement.
Je veux dire sur les équipes qui vont venir, on sait que les jeux méditerranéens, c'est quand même ce qui profile sur le long terme, sur les futurs grands athlètes qui vont arriver.
Exactement, ouais. C'est les espoirs.
C'est ça. Et sur l'athlétisme, on a la piste d'Oran, le nouveau stade d'Oran, là.
Oui.
C'est là-dessus que ça va se faire.
Ouais. Ça a été apparemment fait, donc.
Il y a le concours hippique aussi, il y a le concours hippique.
Ouais. Ouais, il y a tous les.
Moi, non, on va s'installer là-bas.
Bah oui, il faut. Hein.
Ah oui,
donc,
oui.
C'est encourageant. Ça va rester aussi pour les athlètes algériens après. Le stade, je sais pas si. J'espère que c'est l'MCO et l'ASMO, deux clubs phares en Algérie. J'espère qu'ils vont aussi profiter des installations-là. Il faut juste faire attention aux installations. Sachez que, voilà, c'est pour vous, certes. Mais c'est pour nos enfants aussi, pour tout le monde. C'est si on fait attention aux infrastructures, c'est pour le bien du sport oranais d'abord et le sport algérien après pour les joueurs qui vont en équipe nationale.
Ouais, mais une question fondamentale. Tu penses que aussi le fait que l'Oran va être le phare du sport mondial, parce que je me dis c'est une compétition mondiale, tu penses que ça peut influencer tout le pays? C'est-à-dire qu'avoir les structures que tu vas avoir, c'est-à-dire qu'à un moment, Oran va être là-haut, et toutes les autres villes vont regarder ça. Est-ce qu'ils ont l'initiative, eux, de monter ces projets-là, de voir ce que deux autres villes peuvent construire aussi? Parce que c'est aussi ça, l'évolution. Tu ne peux pas mettre une ville là-haut, lui donner ce qu'il faut, et les autres vont regarder, et on fait comment, nous? Tu vois, est-ce qu'il y a un impact politique, je ne sais pas, dans ce domaine-là, peut-être Aziz, il
aura... J'espère que c'est dans le programme de la fédération et du ministère et de l'organisation aussi des Jeux méditerranéens. Parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est Oran qui va organiser et
c'est
que
ça,
toute l'attention elle va être sur Oran et pas les autres. Non, parce qu'on a des villes comme Annaba, comme Constantine. Il y a des salles de handball, il y a des stades de foot. Par contre, il faut juste de la rénovation et prendre soin de ces infrastructures, parce que c'est très important. Parce qu'on a des stades, c'est vrai que nos stades ils sont un peu vieillous. Et ça fait un moment qu'on n'a pas construit un stade à part celui de Oran-là pour les Jeux méditerranéens, et ça sera aussi bénéfique pour l'équipe nationale, Inch'Allah, de foot, de l'athlétisme, tout ce qui est le sport algérien. Et donc voilà, j'espère que les autres villes aussi. On a vu que, par exemple, dans le Sahara, il y a des clubs maintenant, il y a Saoura au foot, il y a Saoura au handball, ça n'existait pas avant. Donc on sent que les gens, ils peuvent aussi faire, même si c'est des hommes d'affaires ou des gens, des entrepreneurs et tout, ils peuvent aussi rentrer dans le sport, aider leur ville pour montrer aussi que nous aussi on peut rivaliser avec vous.
Très bien, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM.
Retour sur le plateau de Foot de sport. Alors, comme promis, nous avons réussi malgré tout à avoir notre ministre et on va dire commissaire. Hein, c'est ancien ministre de la jeunesse et des sports. Mais aujourd'hui, commissaire pour les Jeux méditerranéens d'Oran, qui vont se dérouler dans quelques semaines maintenant, puisque c'est au mois de juin. Ouhar El-Bahia, comme on dit. Les travaux avancent. D'abord, je vais le saluer. Je sais que vous nous écoutez. Alors, je pense que vous êtes sur Alger. Monsieur Derwaz, monsieur le commissaire, je devrais vous dire bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation.
Bonsoir, c'est toujours avec plaisir.
D'accord. Donc, alors, première question, c'est vrai, en tant qu'Algérien, on a tous attendu ce moment depuis maintenant des lustres. Ce moment va enfin arriver. Dans quelle situation se trouve aujourd'hui la préparation de ces Jeux méditerranéens à Oran ?
Ben, ça a beaucoup évolué après une grande stagnation due à la fois aux événements politiques qu'a connu notre pays après avec le Hirak et les changements qui sont intervenus, suivis ensuite du Covid-19, épidémie mondiale. Beaucoup de choses donc ont retardé l'avancée des travaux, que ce soit sur le plan de l'infrastructure, que tout ce qui est lié à l'organisation. Et le retard était vraiment grand, ce qui a fait réagir les autorités du pays pour décider un changement qui est intervenu avec ma nomination le 5 octobre, commissaire des Jeux, président du comité d'organisation. Depuis ce moment-là, j'ai essayé de faire une reprise en main de tous les dossiers qui étaient en souffrance, alors que le Wali d'Oran et le ministre de l'Habitat étaient chargés, eux, de faire avancer les travaux des infrastructures nouvelles, puisqu'en termes d'infrastructure, il y a à la fois les nouvelles qui sont représentées par le complexe olympique, le nouveau stade d'Oran, à la fois pour le football et l'athlétisme, mais aussi le complexe nautique avec ses trois bassins et également le nouveau palais des sports, Salon Omnisports. Et puis d'un autre côté, toutes les autres infrastructures de la ville d'Oran et de la périphérie qui ont été toutes placées en réhabilitation. Et ces travaux ont pris un nouvel élan, en particulier donc pour les nouvelles infrastructures. Et si je dois reprendre les termes des responsables du Comité international des Jeux méditerranéens récemment, à savoir le président, le secrétaire général, et ils ont parlé de miracle parce qu'effectivement ce qui a été fait en 4-5 mois n'avait pas été fait en plusieurs années. Et ceci est à mettre au crédit des intervenants nouveaux, à savoir des sous-traitants, toujours sous la responsabilité de l'entreprise chinoise, mais des sous-traitants qui, avec notamment une entreprise privée de très gros gabarit, le groupe Hasnaoui, ont pu faire avancer les travaux d'une façon exceptionnelle. Et aujourd'hui, on peut dire qu'à la fin du mois de mars, dans une dizaine de jours, les trois nouvelles infrastructures seront terminées. Tout ce qui est à la périphérie également. Il restera encore des détails à régler. Vous savez que le stade d'Oran avait déjà abrité une rencontre alors qu'il n'était pas encore réceptionné. C'était la rencontre de l'équipe A'. Mais mais c'est un stade magnifique qui servira également à la cérémonie d'ouverture, à la cérémonie de clôture, et bien entendu aux épreuves d'athlétisme et de football, tandis que le football aura lieu également dans la wilaya de Mascara, à proximité de la wilaya d'Oran, dans la ville de Sig, un stade de football magnifique également.
Monsieur le commissaire, je l'ai vu, et il est top ce stade.
Ah, il est magnifique, vraiment. Ouais, je l'ai visité également. Et le water polo, qui est déplacé également vers SIG, parce qu'il y a une très belle nouvelle piscine olympique. Voilà, donc sur le plan de l'avancée des travaux d'infrastructure, ça a été remarquable. Sur le plan du reste des questions de l'organisation, il y a, on va dire, deux vitesses, parce qu'il y a des commissions, il y a 12 commissions en tout. Il y en a certaines qui avaient bien travaillé, dirigées par des cadres de l'État, comme on va savoir par exemple le directeur de la santé publique de la Houlière d'Oran, qui dirige la commission de santé sous tous ses aspects, à savoir la santé générale des futures délégations, mais également l'aspect anti-Covid et la lutte contre le dopage. La commission des transports, qui également a bien fait son travail, qui est placée sous la direction du directeur des tramways, de la société des tramways d'Oran. Et l'hébergement-restauration, il y a un magnifique village olympique qu'on appellera donc le village méditerranéen, qui est terminé et qui est d'un standing d'après les délégations représentées par les représentants des comités olympiques qui étaient venus dans le 12 décembre, et également les visites techniques des membres du CIJM, et récemment le président, le secrétaire général, qui est un village de qualité supérieure à celui qui a abrité les Jeux Olympiques de Tokyo, par exemple. Donc c'est une fierté. Maintenant, il y a des commissions qui ont été largement en retard. Par exemple, celle de la communication, presse et information, qui était très en retard sur le dossier de la communication. Nous commençons à rattraper ce retard avec la cérémonie des moins 100 jours qui a eu lieu donc il y a 3 jours, et ça a été une grande parade dans la ville d'Oran. C'est vraiment le déclenchement d'une campagne de communication. Et la commission également de sponsoring et marketing, qui avait connu beaucoup de retard. Donc j'ai procédé à un certain nombre de changements à la tête de ces commissions. J'avais pas voulu tout bouleverser en arrivant, mais au fur et à mesure du temps qui est passé, j'ai dû procéder à quelques changements pour renforcer l'équipe avec des cadres de plus grande expérience et compétences que ceux que j'ai trouvés à mon arrivée.
Voilà, alors il y a M. Sanjak qui est là, Selim Nedjal, Ahmed Loudni. Nasser veut déjà te poser la première question. Nasser, vas-y.
Oui. Bonjour, monsieur le ministre. Un plaisir.
Bonjour. Mes salutations, Nasser. C'est un grand plaisir.
Ah, pareil, moi.
Et salutations à Salim également, à côté de
moi. Bonsoir Aziz.
Il a eu des belles lunettes.
Bonsoir Salim.
Monsieur Deroy, je voulais savoir, monsieur le ministre, excusez-moi. Je voulais savoir, c'est quand la dernière compétition internationale qui a été menée en Algérie? C'était quand la dernière?
La dernière, c'est les Jeux africains de la jeunesse, d'une certaine dimension, en 2018.
Ouais, et avant ça?
Et avant ça, il y a eu les Jeux africains en 2007. Ouais. Et avant ça, les Jeux Panarabes en 2004. Et puis voilà. Bon, ensuite, il y a quelques championnats d'Afrique.
Oui, comme la CAN des U17 en 2009, à laquelle j'ai assisté d'ailleurs. Ça, je m'en souviens très bien.
Ah, il y a eu également les championnats du monde des moins de 21 ans de handball en 2017,
Crois. Ouais, mais en compétition comme ça, internationale... Il y a très 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 longtemps que l'Algérie n'a pas...
C'est un événement majeur.
De ce niveau, c'était les Jeux méditerranéens de 1975, il y a 47 ans.
C'est exactement ça que je veux dire. Et donc ça veut dire que vous avez une grosse responsabilité inouïe. C'est pour que l'Algérie revienne au premier plan, et les perspectives que ça va ouvrir sur les Coupes d'Afrique ou sur les compétitions internationales, ça veut dire que vous allez être noté vraiment sur ce projet-là, hein, parce que sur ce que je vois, et sur comment les gens attendent l'Algérie depuis très longtemps, et sur le rendu que vous allez faire, M. Deroy, ça va être une décision extrêmement importante, hein, sur l'avenir.
Ben, j'espère bien, une très grosse responsabilité, rendue encore plus compliquée par les grands retards qu'il y a eu, parce que c'est quand même des jeux qu'on nous a attribués en 2015, et que à partir de l'installation du premier comité d'organisation en 2017, on doit dire qu'on n'a pas fait grand-chose. Tant bon, les infrastructures, j'en ai, je les ai évoquées tout à l'heure, mais sur le plan de l'organisation en général, non plus, à part les commissions que j'ai citées comme, on va dire, exemplaires. Maintenant, c'est vrai que des jeux comme ça, on va recevoir plus de 5000 personnes, je parle de délégations, je ne parle pas des touristes, des journalistes, etc. Et c'est considérable. Vous savez, la délégation française est déjà estimée à 550 personnes environ. Alors, ça donne une idée sur l'importance de ces jeux et de cette édition, cette 19e édition, parce que les Jeux de Tarragone, on va dire, étaient un échec avec des circonstances atténuantes aux organisateurs espagnols. Il y avait eu des problèmes politiques majeurs en 2017 qui devaient être la date normalement de ces jeux, et reporté d'une année. Donc on est entré maintenant dans une nouvelle logique au niveau du CIJM, avec des jeux qui ont lieu 2 ans avant les Jeux Olympiques, 2 ans après les Jeux Olympiques. Donc à mi-distance, ce qui permet d'avoir non seulement un certain nombre de champions et championnes, mais également des athlètes préparés pour les futurs Jeux Olympiques.
Monsieur le commissaire Aziz Delouage, je rappelle, vous êtes notre invité ce soir dans Foot du Sport sur Beurre FM. Vous avez aussi, à travers votre expérience et votre vécu, fait appel à des garçons ou des filles qui sont issus qui ont marqué de leur saut, on va dire, leur carrière au niveau européen, par exemple. Comment est venu, par exemple, le choix de notre invité, la Selemine Djalisi? Est-ce que lui-même, déjà, qui a joué à Oran, c'est aussi le symbole de cette représentativité de la ville d'Oran?
Bien entendu. Vous savez, on vient à l'occasion des moins 100 jours, on a honoré quelques athlètes. Je dois dire que ça n'est pas fait souvent, malheureusement.
Ouais.
Et on a voulu marquer le coup, surtout de façon symbolique, par rapport aux champions de la ville d'Oran et de la région. Nous avons donc honoré Boualem Rahoui, qui est d'Aïn Temouchent, et qui est le premier médaillé d'or des Jeux méditerranéens de 1975. Nous avons honoré également Mustapha Moussa, le
boxeur.
Le boxeur, oui. Premier médaillé olympique algérien avec Zawi, oui. aux Jeux olympiques de Los Angeles, en 1984.
Oui.
Nous avons honoré également le boxeur Bouchich, qui lui est médaillé d'or aux Jeux méditerranéens. Et nous avons honoré Mustapha Dobala, je dois dire que c'est au titre de l'équipe nationale de handball. Il ne faut pas oublier que l'équipe nationale de handball a une histoire particulière avec les Jeux méditerranéens. Médaille d'argent en 83 au Maroc, médaille d'or en 1987 en Syrie. Donc ça, c'était des symboles. Et ceci ouvre la porte également à honorer dans les semaines qui viennent les autres symboles du sport algérien, mais surtout également les symboles de la ville d'Oran, de la wilaya d'Oran. Et Selim Njel entre dans ce cadre-là, où lui, il est un des symboles de la réussite des sportifs produits par la wilaya d'Oran. Et je serai très heureux de l'avoir. Nous avons chargé le comité olympique, sa commission des athlètes, de nous dégager une liste d'athlètes dames et hommes pour constituer un groupe d'ambassadeurs pour lesquels nous allons dresser, et d'ambassadrices, pour lesquels nous allons dresser un programme qui participe à la promotion des Jeux méditerranéens. Alors, il est fort possible que Selim fasse partie de cette liste, mais en tout cas, Selim est un petit frère pour moi. Et donc,
vous avez été son coach.
Je considère qu'il doit être largement une des références du sport algérien à mettre en avant pour la promotion de ces Jeux d'Oran 2022.
Au niveau filles, j'ai pensé à J'ai pensé à Zahra Gamir, qui a été la plus grande championne d'escrime en Algérie, hein, notre Zahra.
Ben oui, c'était. Écoutez, moi, j'ai chargé la commission des athlètes du comité olympique de faire ça. Par contre, s'il y a des lacunes dans la liste qui me sera présentée, je serai content de recevoir les suggestions qui nous viennent d'ailleurs, parce que malheureusement, l'histoire de notre sport est mal écrite et il faut rendre toujours à César ce qui lui appartient.
Vous savez, monsieur...
Alors, merci pour Zahra Gamir. Et d'autres championnes et champions, nous avions comme ambassadrice déjà référencé Nouria Benidamrah, médaille d'or aux Jeux Olympiques et de Sydney. Et ça, c'est très important. Et il faut rendre l'hommage qu'il faut à Saïd Ghermi Djabir. Et oui, on ne va pas oublier Nourdine Morsli, Hassiba Boulmarka. Bon, la liste est longue, mais heureusement, tant mieux. Et on aurait aimé qu'elle soit encore plus longue. On espère surtout ne pas faire de grosses erreurs.
Vous savez ce qu'on va faire, monsieur Derwaz? J'ai une pause qui fait à peu près une minute. Je vous récupère juste après. Vous restez avec moi en ligne, bien sûr. Parce que si jamais la commission oublie, nous sommes ici à Beurre FM, puisqu'on suit la préparation de cet événement. C'est normal, ça va de soi. On est presque constamment en contact avec vous. Et de temps en temps, de par l'importance de la radio, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, entre la FM, le DAB, nous sommes à plus de 42 fréquences aujourd'hui, et rien que sur nos réseaux, ce qu'on appelle sur un lissage d'une semaine, nous sommes à plus de 1 200 000 auditeurs cumulés. Donc c'est quand même phénoménal comme information à vous transmettre. Vous restez avec moi, je vous récupère dans un instant.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Alors, dernier quart d'heure de cette émission en compagnie de M. Aziz Derwaz, commissaire aux Jeux méditerranéens d'Oran. Alors, je vous disais, M. Derwaz, effectivement, grâce à notre station et à la puissance aujourd'hui de Beurre FM, eh bien, de temps en temps, on va balancer des noms comme ça. Et puis, peut-être avec cette commission, vous allez les honorer. Parce que je pense que ce sont des athlètes qui ont rendu une certaine fierté à l'Algérie et qui ont besoin aussi d'un minimum de reconnaissance. Ils ne demandent pas grand-chose, juste une simple reconnaissance.
Bien entendu, c'est une préoccupation qui devrait être constamment celle du comité olympique algérien. Il faut saluer donc l'initiative aussi de l'Ehoulou, l'athlète, qui lui a créé également l'association des Olympiens. Et donc, normalement, les lacunes qui existaient dans la gestion précédente du comité olympique devraient disparaître et laisser la place à la véritable histoire du sport algérien, avec toutes les stars qui ont écrit cette histoire depuis l'indépendance, dont on va célébrer le 60e anniversaire autour de la clôture des Jeux méditerranéens d'Oran. Voilà, depuis ces 60 années, il y a eu quand même beaucoup de grands et beaux champions et champions.
Alors Nasser, ensuite Salim, je vous laisse poser vos questions.
Oui.
La roue tourne très vite là.
Moi, il y a une question qui me taraude un petit peu, c'est l'objectif de résultat. Il va y avoir réellement un objectif de résultat sur les Jeux méditerranéens, quand on voit ce qui s'est passé aux Jeux olympiques, qui était une catastrophe, et quand on voit la projection qu'il va y avoir sur les Jeux olympiques qui va y avoir lieu à Paris derrière, est-ce que l'objectif de résultat va être très important pour les athlètes qui vont être en place?
Alors ça n'est pas ma responsabilité, je n'ai rien à voir avec les résultats, mais c'est vrai que c'est ma préoccupation.
Voilà.
Je dois dire que je ne suis pas optimiste pour le bilan sportif qui couronnera la participation de notre pays aux Jeux méditerranéens, parce que ça dépend malheureusement davantage de la participation étrangère si elle venait à être faible plutôt que de la santé de notre sport. Je n'ai jamais hésité à dire que notre sport est malade, voire même très malade, et que il me semble que rien n'a été fait pour l'instant dans le sens d'essayer d'apporter les mesures indispensables de redressement. Alors les Jeux méditerranéens vont passer. J'espère qu'ils permettront de faire un véritable bilan, parce que l'Algérie a écrit de belles pages sportives, on était en train de le dire. Et c'était dû à une politique clairement ambitieuse pour le sport d'excellence, avec donc la réforme sportive et le sport de performance. Ceci étant, il a bien fallu y mettre fin, parce que c'était la gestion du sport de performance par des entreprises publiques. Les conditions économiques ont bien entendu fait changer les choses, mais nous sommes malheureusement depuis 30 ans dans ce que je qualifie de période de transition. Il y a de nouvelles règles aujourd'hui. Pour être dans l'excellence et aspirer à avoir les mêmes résultats ou les meilleurs résultats que ne serait-ce que pour les voisins ou ambitionner d'être au niveau mondial, il faut les moyens qu'il faut. Il faut le statut d'athlète professionnel pour les athlètes, quelle que soit la forme juridique qu'on donne à cela. Il faut rémunérer les gens, les joueuses, les joueurs, les athlètes, et ça c'est aujourd'hui un passage obligé. Et donc il y a vraiment ces choses-là à revoir, l'organisation du financement des clubs, l'organisation pyramidale d'accès au niveau pour l'ensemble des disciplines sportives, surtout celles qu'on devrait prioriser, parce que malheureusement on ne priorise pas, et aussi la passerelle à renforcer avec notre population algérienne qui vit à l'étranger et qui est un véritable potentiel de grosses dimensions. Et on en a toujours la preuve avec l'équipe nationale de football, dont j'espère qu'elle va réussir à passer le cap de la qualification du dernier tour pour la Coupe du Monde, la future Coupe du Monde de football.
Ok. Salim?
Bonsoir Aziz, merci beaucoup pour le compliment, et je te retourne le compliment, parce que tout à l'heure en off je disais que voilà, Aziz a été déjà, je vais pas le présenter parce que il est
non,
quand
non
même...
mais Selim, regarde, entre moi qui dis monsieur le commissaire Nassar, ah, ouais, qui dit monsieur le ministre, et toi qui dis Aziz, parce qu'il a été ton entraîneur, donc il y a cette complicité entre vous là, ouais. je comprends mieux.
Ouais, j'ai toujours appelé Aziz par son prénom, parce que voilà, c'était parce que lui aussi peut-être il nous a demandé à un certain moment, quand on était jeune joueur en équipe nationale, au lieu de l'appeler coach ou machin, il était assez peut-être donc déjà pour commencer, félicitations par rapport à tes fonctions, à tes nouvelles fonctions. Donc merci, ça c'est la première des choses. Et moi, ma question, elle était, j'allais dévier un peu des jeux. Je sais que là on reçoit quand même le ministre, le commissaire des jeux, et moi je voulais parler plutôt de notre, on va dire, sport préféré. Je voulais savoir quel est l'état du handball algérien. Est-ce qu'on a des nouvelles concernant le championnat d'Afrique, l'ancien président de la fédération? Est-ce qu'on avance sur un chemin plus, on va dire, plus positif, plus sachant qu'on a les Jeux méditerranéens et tout, et voilà, c'était ma question.
Alors il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que l'équipe a été enfin reconstituée, s'est mise au travail. Il y a la nomination de la Barbi entraîneur national, de Abdeslam Ben Morsoula manager, et je pense qu'ils feront une excellente équipe. Donc l'équipe nationale est en stage avec le potentiel humain qui est ici au niveau local. Et donc l'équipe se dirige enfin vers une compétition internationale, à savoir donc les Jeux méditerranéens. Alors ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle c'est que la compétition de handball aura bel et bien lieu, parce qu'elle a été menacée, puisque dans le cadre d'une espèce de complot dont le handball algérien est victime, le championnat d'Afrique des Nations a été qui était programmé en janvier a été reprogrammé en même temps que les Jeux méditerranéens, bizarrement, et donc que j'ai personnellement interpellé le comité international des Jeux méditerranéens pour prendre en charge ce dossier. Ils l'ont fait avec force, jusqu'à menacer d'annuler la compétition de handball des Jeux, ce qui aurait été pour nous vraiment triste qu'il n'y ait pas de handball aux Jeux méditerranéens, alors que nous avons ce palmarès que j'évoquais tout à l'heure dans l'histoire de ces Jeux. Et nous avons eu le bonheur, il y a une semaine, 10 jours, de recevoir l'information officielle de la déprogrammation de la date qui était faite pour reprogrammer ça à partir du 10 juillet, cérémonie d'ouverture, le 11 juillet, l'ouverture de la du nouveau, enfin la nouvelle date d'ouverture du championnat d'Afrique. Autrement dit, les Jeux méditerranéens auront bel et bien lieu dans la discipline handball, et j'espère que notre équipe nationale sera préparée valablement pour prendre part avec des objectifs, pourquoi pas, dans cette compétition. Ce qu'il y a, il faut attendre de connaître la participation internationale. Nous avons su que l'équipe de France ne venait pas, en aucune catégorie d'ailleurs, pas plus des jeunes que l'équipe première. Mais nous ne savons pas ce qu'il en est de l'Espagne, des ex-pays de la...
De la Yougoslavie.
Voilà, des pays composant l'ex-Yougoslavie, qui sont tous une force dans le handball international. Le Portugal, l'Égypte et la Tunisie. L'Égypte, j'ai cru savoir qu'ils allaient venir avec une équipe jeune. Donc c'est ce qu'ils avaient annoncé. Est-ce qu'il y va y avoir un changement avec le nouveau changement dans le programme? Je ne le sais pas. Le Maroc, la Tunisie sont des équipes qui participent traditionnellement. Alors il y aura ensuite bien entendu l'Italie, la Grèce, la Turquie qui cherchent toujours à se faire une place dans le quota international et qui à travers les Jeux méditerranéens trouvent une occasion de briller. Donc il faut attendre les engagements des pays par discipline. On sait maintenant que les 26 nations sont engagées dans les Jeux. Par contre, on n'a pas encore fait le point par discipline sportive, puisque la date du 18 mars, qui était la date limite, a été reculée par décision du Comité international des Jeux méditerranéens. Donc je pense que c'est à hauteur du 10 avril que c'est la nouvelle date. Je vous avoue que je ne l'ai pas retenu. Et donc lorsque cette période sera bouclée, on pourra connaître les engagements de tous les comités olympiques dans les différentes disciplines sportives, ce qui permettra à chacun d'entre eux, y compris donc notre pays, de dégager plus clairement des pronostics. C'est pareil pour les disciplines, les sports individuels, et donc à ce moment-là, on aura une projection des futurs résultats de notre délégation. Je rappelle que je n'ai pas de responsabilité là-dessus, mais que j'ai des préoccupations que j'ai exposées. Pour le handball national, il faut dire aussi que il est très peu probable qu'on participe à la Coupe d'Afrique. En fait, la Confédération africaine a joué un jeu bizarre dans ce report de la compétition, en disant qu'ils avaient accédé aux vœux de l'Algérie et de la Zambie. Mais en vérité, l'Algérie n'avait pas participé au premier tirage au sort. Et pour cause, La compétition était programmée dans deux villes du territoire du Sahara occidental occupé. Alors, maintenant que c'est reprogrammé, à aucun moment, que ce soit au moment de la date du 22 juin tel qu'il l'avait annoncé, ni maintenant avec la date du 10 au 18 juillet, il n'est annoncé le lieu de la compétition.
Mais, monsieur Derouaz,
on aura la bonne surprise qu'il y ait une délocalisation à l'intérieur du même Maroc ou pas, je n'ai pas d'idée.
Merci monsieur Derouaz, bonne soirée sur Alger.